début d'une retraite, il me semble toujours important de se poser des questions essentielles, par la suite aussi d'ailleurs, mais on peut aborder par la suite des questions qui sont plus précises, plus spécifiques par rapport à certains aspects, mais au tout début quand même de se demander ce qu'on fait là dans le fond. Parce que si on regarde, on est assez nombreux quand même, et puis on se demande ce qu'on peut bien chercher ici. Quoi. Pourquoi tout d'un coup on se retrouve tous ici, là, dans un endroit magnifique évidemment, mais qu'est-ce qui nous amène là, fondamentalement? Qu'est-ce qu'on cherche? Je crois que c'est toujours important de se poser cette question. Et à mon avis, la réponse est à redécouvrir chaque fois. Pas une réponse une fois pour toutes, mais il s'agit chaque fois de se reposer cette question et d'essayer de déterminer en soi-même la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on fait là dans une retraite? On sait que ça va être en silence, qu'on va... Dans le fond, ça devient très peu d'activité productrice de quelque chose. À travailler dans les champs ou dans une fabrique, peut accomplir de choses effectives qu'on pourrait montrer à la fin, comme si on faisait des paniers en osier. À la fin, on aurait quelque chose à montrer, mais là, à la fin, on n'aura pas grand-chose à montrer à nos amis qui pourraient nous visiter, ou quand on rentre à la maison, on ne pourra pas dire « Regarde ce que j'ai fait pendant cette semaine ou ces deux semaines. » Il n'y a rien. Donc, on est quand même dans une situation assez particulière. Et c'est certainement pas nouveau, ça fait peut-être des millénaires que par moment certaines personnes se retirent d'une activité créatrice, productrice, pour peut-être se disposer à autre chose. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Se disposer à quoi? Quelle est la motivation? Le sens de ceci. Donc chercher quelque chose, mais et ensuite comment on le cherche dans la méditation. Se rendre compte que au cours des millénaires ou des siècles, on a développé des connaissances extraordinaires. En science, en développement des outils tellement sophistiqués qui nous permettent de voir l'extrêmement lointain, découvrir des planètes ou des galaxies, ou je ne sais pas, je ne suis pas vraiment... pas beaucoup de connaissances en ceci, mais enfin, avec les instruments qui se sont développés, donc découvrir des choses extraordinaires, extrêmement lointaines, ou bien dans l'extrêmement petit, dans l'infiniment petit, aussi avec des outils qui font quelques kilomètres de grandeur, on peut s'imaginer ça. Donc, découvrir là des choses extrêmement, infiniment petites, qu'on a développé une vision scientifique telle que finalement personne n'y comprend plus rien, parce que tout le monde sait bien qu'on peut avoir des équations autres, mais si on essaie de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire ce monde que les scientifiques nous décrivent, même les scientifiques ils ont de la peine à se l'imaginer d'ailleurs. 4 dimensions, 5 dimensions, imaginez avec 3, on a déjà pas mal de problèmes. Donc, s'il fallait passer. On a développé une grande complexité avec les outils, avec les mathématiques, etc. Donc, ce qui fait qu'on comprend même plus exactement ce qu'on découvre. Donc, qu'est-ce qu'on utilise dans la méditation? Est-ce qu'il s'agit aussi d'utiliser des théories compliquées, des concepts extrêmement complexes qu'il s'agirait tout d'abord de comprendre avant de pouvoir s'engager dans la méditation pour pouvoir l'approfondir. Imaginons que la méditation est quelque chose d'assez subtil et profond, donc est-ce que ça veut dire aussi que elle doit s'appuyer sur des concepts compliqués? Qu'on aurait besoin de maîtriser avant de pouvoir, dans le fond, éprouver ce qui se passe dans la méditation, ce qui pourrait se passer. Mais peut-être ce qui est moins exploré, où on est plus pris au dépourvu dans notre exploration, c'est pas ce qui est extrêmement loin. On voit qu'on a développé des outils inimaginables, ni dans cet extrêmement petit. On a aussi tous les outils, les outils conceptuels aussi pour le découvrir. Mais dans la méditation, il s'agit où la difficulté vient de ce que nous abordons est tellement proche de nous-mêmes que ce qu'il peut nous faire, ce qui peut nous faire défaut, ce n'est pas la complexité, mais c'est un recul qu'on voudrait bien avoir pour découvrir ce qui n'a justement ne peut pas être découvert dans le recul. Que dans le fond, la complexité, si on a une ou la richesse, c'est que ce que nous essayons d'explorer, ça n'a rien à voir avec du lointain ou de l'infiniment petit, mais c'est ce qui est infiniment intime à nous-mêmes, puisque c'est nous-mêmes. Et c'est là que tout d'un coup, on est pris au dépourvu, parce que peut-être qu'on est trop sophistiqué pour le lointain et l'extrêmement petit et l'extrêmement complexe, que finalement, quand il s'agit d'aborder ce qui est le plus intime à nous-mêmes, que là, on se trouve un peu pris au dépourvu. Donc c'est cette exploration, finalement, dans laquelle il s'agit de s'engager dans la méditation pour se relier à quelque chose qui est extrêmement intime, puisque c'est nous-mêmes. Découvrir nous-mêmes, être en rapport à nous-mêmes. Donc certainement ce qui est le plus important comme découverte. Parce que les planètes, on ne les connaissait pas avant, celles qui sont tellement lointaines, ça ne nous a pas empêché de nous chamailler, de nous aimer, etc. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais cette connaissance de soi, le fait d'être là pleinement dans sa propre vie, semble quelque chose qui soit vraiment essentiel pour nous. Donc une des difficultés fait que on a tellement l'habitude de se mettre à distance pour observer, pour juger, pour évaluer, que tout d'un coup, cette attitude-là ne joue plus. On ne peut pas se mettre à distance de soi-même, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on essaierait d'explorer, c'est quoi? Ça serait quelque chose d'autre que nous-mêmes, puisqu'on serait à distance. Donc il s'agit de découvrir une attitude qui est complètement différente que celle que nous avons dans la manière courante d'aborder les choses, ou de vouloir connaître, ou de vouloir comprendre. Découvrir cette chose extraordinaire, l'expérience que la vie fait d'elle-même. Et ceci est tellement proche et intime que qu'on se rend compte que le vocabulaire, tout d'un coup, il est inadéquat. Il est difficile d'exprimer ceci avec les mots. On parle pour parler de ce qu'on vit, de ce qui est là, de cette expérience dans le présent, de l'expérience que la vie fait d'elle-même. On emploie des termes comme en français le vécu, mais le vécu, c'est un passé, quoi. On est bien pris au dépourvu. L'expérience, c'est difficile. Parce que justement, ce qu'on essaie d'explorer, c'est soi-même, à chaque instant, dans cette richesse de ce qui nous traverse, avant qu'on le mette au passé. Au moment où ça se passe, au moment où c'est là, à chaque instant, dans cette richesse qu'a la vie de se manifester, et d'être pleinement elle-même dans ce qu'elle manifeste à chaque instant. Avant de vouloir le comparer, l'évaluer, le juger, etc., tout ceci, c'est déjà se mettre à distance. Donc l'enjeu pour nous de la méditation, c'est vraiment être pleinement là, dans sa vie, ou être pleinement sa vie, qui n'a rien à voir avec la science. Ce n'est pas d'ailleurs une négation de la science, c'est simplement quelque chose d'autre. C'est une manière de vivre pleinement ceci. Donc s'il y a une difficulté, soit de comprendre, ou même pour nous de décrire souvent, c'est que le vocabulaire semble souvent un peu biaisé. Il va très bien quand on parle d'autre chose. Mais quand le langage, il essaye de parler de l'expérience elle-même, alors tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Que dans notre méditation, il ne s'agit pas de s'appuyer sur le langage ou de se raconter constamment des histoires, mais d'être là, pleinement. Donc c'est donc de nous-mêmes dont il s'agit. Mais pas nous-mêmes historiquement ou psychologiquement, voilà, ceci ou cela, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais là, on essaie d'être dans quelque chose d'encore plus intime, si on veut. Pas nous-mêmes au passé, ni au futur, mais dans ce qui surgit, ou comment on surgit à chaque instant, mais comment on est conscient de ceci. Comment cette vie est consciente d'elle-même à chaque instant, qui est une chose extraordinaire. On pourrait dire inimaginable, parce qu'on peut seulement le vivre. Et si on veut l'imaginer, alors on est déjà dans l'imaginaire. Donc elle est là, dans le vécu immédiat. Donc voilà peut-être pourquoi nous nous retirons pour explorer ceci, qui est certainement quelque chose d'essentiel, de très important, et pas seulement au XXIe siècle, qui était important depuis des millénaires. Une manière de se disposer pour se rencontrer pleinement. Découvrir la richesse de ce que nous sommes quand nous assujettissons pas à une tâche à accomplir. Même si une tâche à accomplir ne voile pas, ne cache pas ce que nous sommes. Mais si nous sommes trop affairés par l'accomplissement de quelque chose, alors nous nous oublions dans ce que nous essayons d'accomplir. Donc ici, nous avons cette opportunité extraordinaire d'être simplement là pour... voilà, je tombe dans les problèmes du vocabulaire. Donc pour être le vécu, pour éprouver, etc. C'est bien pour ceci qu'il s'agit pour nous de le découvrir dans la pratique. De créer les conditions, c'est ce que nous faisons tous ensemble et aussi nous les enseignants, de créer cette condition qui permet d'être dans cette expérience, dans ce contact avec soi-même. Mais sans marchandage. Je veux bien être présent quand, si il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de somnolence, la liste, chacun a sa liste d'ailleurs, mais résultat, on est toujours en train de marchander avec le fait d'être en vie. Comme si on pouvait reporter le fait d'être en vie. Mais ce qui est reporté, ça ne se retrouve jamais. Et ben voilà, j'ai été absent pendant la matinée, ben ça me sera compté à la fin de la vie, j'aurai une matinée en plus, non, c'est pas comme ça que ça se compte. Donc chaque instant, on n'est pas là pour sa propre vie, c'est un instant perdu. Il y a des personnes qui sont tellement pas là qu'il y a toute une vie qui est perdue. Donc pas de marchandage. Ce qui veut dire pratiquement qu'il s'agit pour nous d'être là, d'assumer cette présence à chaque instant, quelle que soit la situation. Agréable, désagréable, tranquille, dans l'inquiétude, peu importe. D'être là, quoi qu'il arrive. Parce que la richesse de ce que nous découvrons est beaucoup plus profonde que l'inconvénient des difficultés qui peuvent surgir. Et ceci non pas en devenant compliqué, parce qu'il s'agirait de connaître le bouddhisme ou la philosophie et des choses comme ceci, non. Au contraire, parce que peut-être que dans la pratique, on apprend à être moins compliqué, à laisser tomber un petit peu la complexité de vouloir que ça se passe d'une manière ou d'une autre, on laisse tomber tout ceci pour finalement, dans une bien plus grande simplicité, découvrir cette richesse d'être à chaque instant. Donc un travail de simplification, non pas quelque chose de compliqué. Et on se rend compte dans la pratique que lorsqu'elle est difficile, en général, c'est pas parce qu'elle est difficile, c'est parce qu'on se complique la tâche. C'est de bonne guerre. Nous avons l'habitude de faire ceci, donc évidemment nous rencontrons dans notre pratique tendance à compliquer les choses, à croire qu'on peut être présent que s'il n'y a pas d'agitation, pas de somnolence, pas de ceci, pas de cela, pas de douleur. Ceci nous complique l'existence de méditant. Et avec un idéal d'une qualité de présence qui est telle qu'elle ne surgit jamais. Et on peut attendre toute sa vie ce moment idéal où vraiment tout sera parfait. Et là, je serai présent. Plus l'attente de ceci, en général, le voile. Donc sans marchandage. Qui veut dire qu'on ne peut pas se plaindre, ni à soi-même, ni aux enseignants. Ah voilà, mais quand même, voilà, je serais là, mais ah, s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas. Bon, on arrive à arrêter le petit bruit qu'il y avait, donc heureusement, mais on trouvera d'autres choses qui, voilà, pour être présent s'il n'y avait pas ça. Ça a l'air amusant comme je le crie, mais. Moi, j'ai éprouvé ceci très, très, très souvent, quoi. Trouver des excuses. Si seulement il n'y avait pas ceci ou cela, la douleur, la somnolence, voilà, je pourrais être présent. C'est pas ma faute. Donc, quelque chose, je crois, qu'on connaît tous. C'est pas dramatique, mais si on s'enferme là-dedans, alors à ce moment-là, la pratique devient très difficile. Donc, il s'agit de consentir à être présent. Parce que si on ne veut pas, évidemment, je ne suis pas sûr qu'on soit au bon endroit. Bien que, si on veut rêver à ses prochaines vacances, c'est vrai qu'on n'est pas très distrait. Mais il y a quand même cette attitude de consentir à être présent. Sans se trouver des excuses, c'est vous rendez-vous compte, si on prend des excuses pour ne pas vivre pleinement sa vie à chaque instant, c'est un peu dramatique. Je pourrais être en vie ici. Il y a des amis qui me disent, ouais, la méditation, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, je veux bien, d'ailleurs, on est déjà bien assez ici. Si c'était le truc de tout le monde, imaginez combien de personnes on aurait, donc je ne sais pas. Mais si la méditation, il s'agit essentiellement, pas uniquement d'être présent et qu'une personne peut dire c'est pas mon truc d'être présent, d'être totalement là dans ma vie, alors évidemment c'est un peu problématique. Alors c'est quoi le truc? Si c'est pas d'être là pleinement dans sa propre vie. Le truc c'est d'éviter d'être là, de ne pas consentir à être là, de ne pas consentir à être présent. Pourquoi pas, mais à ce moment-là, on n'en fait pas un système où je crois qu'on peut pas. C'est pas défendable, ça peut être un choix. Mais on peut se demander maintenant, ben voilà, on comprend ça. Ça a l'air un peu sensé quand même, vaut mieux être là dans sa vie, etc., plutôt que de passer à côté. Mais dans le fond, pourquoi? Je me rappelle, alors que j'ai donné un stage à des élèves infirmiers, infirmières, dans leur dernière année, et puis un stage de présence, puis ils me disaient, mais non, à quoi ça sert d'être présent? Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être avec mon Walkman, d'écouter de la musique, etc. Et de dire, mais enfin, votre présence, on n'en a vraiment rien à faire. C'est vrai, du coup, je suis plus allé donner des stages. Je pouvais pas les obliger à être présents. C'est un choix. S'ils n'avaient pas envie de l'être, d'accord, mais ça sert à rien que je leur donne un stage pour essayer d'explorer la présence s'ils n'ont pas envie d'être présents. On peut quand même se poser la question. La question est bonne. Pourquoi? On peut se dire, bah, si je rencontre ces difficultés dans le présent, des inquiétudes, de la douleur corporelle, enfin des difficultés. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment tellement enrichissant d'être présent? On peut découvrir que dans cette présence qui est en termes ici générale, lorsque c'est la présence qui nous permet, en approfondissement, de savoir ce que nous sommes essentiellement, et de découvrir dans ce que nous sommes essentiellement, que nous sommes essentiellement liberté, liberté qui n'est pas limitée par ces difficultés qui pourraient surgir. Donc si la présence est une manière d'exprimer cette attitude méditative, on peut dire que l'enjeu est la liberté. Et c'est pour ceci que nous méditons, afin de découvrir cette liberté qui est la nôtre. Et que la confusion ou les notions fausses nous voilent. Et ce que le bouddhisme exprime de manière assez claire, pas lui uniquement d'ailleurs, mais je le cite ici, c'est que dans le fond, ce qui nous limite, ce qui nous enferme, ce n'est pas la vie, ce n'est pas les conditions matérielles, etc. C'est nos préjugés. On est enfermé dans les préjugés et non pas dans la réalité de la vie. Ce n'est pas elle qui nous limite. Évidemment, il ne s'agit pas d'y croire comme ceci, mais de l'explorer dans la pratique pour découvrir qu'effectivement, ce sont nos notions, nos préjugés qui nous enferment et pas du tout la réalité elle-même. Qui à ce moment-là nous permet de découvrir cette liberté et d'en faire l'expérience, la vivre, enfin je ne sais pas quel mot utiliser. Donc voilà l'enjeu principal de ce que nous mettons en place ici, la raison pour laquelle nous sommes là, la manière dont nous sommes ici, donc avec une certaine discipline, une certaine austérité. C'est parce que ce que nous essayons d'explorer est, je crois, est une valeur extraordinaire qui est là en chacun d'entre nous, par quelque chose qui manquerait. Après, évidemment, pendant les jours qui vont venir, on pourra parler de certains aspects, certaines difficultés qui peuvent surgir ou d'autres, essayer des éléments positifs qui nous permettent aussi de faire face à ces difficultés, donc d'aborder toutes ces divers aspects, mais quand même de se rappeler cet enjeu essentiel, d'être là totalement en vie et découvrir cet espace de liberté qui est le nôtre. Voilà, donc on va explorer ceci. Patricia Pascal et moi-même, on reviendra sur certains aspects plus spécifiques de cette exploration pour essayer de découvrir ceci dans l'instant, dans la pratique elle-même, sans devoir s'attacher aux mots ou être limité par les mots. Voilà, je vais laisser la parole encore un peu à Pascal pour qu'il dise quelques mots aussi, peut-être introduise un petit peu la pratique aussi.